l'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
sans se retourner, et va vers la direction de la voiture. Il va droit devant lui, ne se retourne pas parce qu'il ne sait plus où est la voiture. Et puis, il ne se retrouve pas dans ce paysage. Il se trouve dans un monde désertique, ciel de plomb, des corps de poussière devant une chaleur étouffante. Adrien ne pense qu'à une chose, c'est la voiture. Il veut trouver la voiture, aller à la voiture. Il ne pense plus à Françoise parce qu'après avoir fait une chose, il ne s'en souvient plus. Il ne se souvient que de son but, et pour le moment, son but, c'est la voiture. Oui, la voiture. Jeanne, pour montrer que les gens de sa classe ne se laissent pas aller et ne baissent pas les bras, organise une soirée et invite tout grand monde. Elle organise cette soirée chez elle et toutes les personnes qui sont invitées y vont. Elle a réussi à avoir suffisamment de produits pour faire son buffet, à avoir des boissons comme du champagne. Les produits d'alimentation et le vin sont extrêmement chers. Elle a ouvert en enfilade ses salons, enlevé des meubles et mis contre le mur des tables pour le buffet, une estrade pour un orchestre et embauché en plus de son personnel des estrades. Toute la maisonnée est illuminée. Elle a mis une robe de soirée longue, couleur crème. Les personnes lui demandent des nouvelles de sa famille. Une femme, corpulente, aux cheveux roux, habillée d'une robe noire, lui demande. « Et le petit Adrien, vous l'avez retrouvé ?» Elle répond. « Non, hélas, il n'a pas été retrouvé. Je suis très inquiète. » La femme lui demande. Je croyais qu'il n'avait pas le droit de sortir de chez vous parce qu'il était très fragile. Comment se fait-il qu'il soit parti? Jeanne lui répond. Il n'est pas parti lui-même, vous pensez bien. On l'a fait partir pour m'ennuyer. La femme demande. Et qui aurait pu faire ça? Jeanne lui répond. Quelqu'un qui en veut à ma fortune. La femme demande. C'est votre fils Albert? Jeanne lui répond. Je ne peux plus le voir. Je suis brouillée avec lui. Très vite, la nouvelle se répand. Les gens pensent qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec Adrien. Peut-être une histoire de famille. L'on dit aussi que c'est elle qui tient les rênes des affaires de la famille. Alors on lui fait des courbettes et cherche à lui demander de l'argent pour des choses plus ou moins humanitaires. Le cardinal, le service de santé pour les orphelins pauvres de toutes sortes, etc., etc. Elle en donne parce que ça fait bien et donne beaucoup. Albert lui apprend par le chauffeur qu'elle donne des sommes folles à des associations. Il est furieux et dit à sa femme, « Je vais la faire enfermer !» La femme lui dit, « Tu n'auras qu'à dire qu'elle dilapide son argent par les fenêtres et l'argent de la société et le tien aussi. Et puis, c'est une autre idée, plus simple. Toi aussi, tu pourrais donner de l'argent à des associations humanitaires pour te faire bien voir. » Il lui dit furieux, « Ça ne servira à rien. Je ne pourrai jamais donner autant qu'elle. Alors que faire ?» Elle lui dit furieuse, « Il n'y a rien à faire. Et puis, je sais. » C'est de ta faute. Tu n'as pas été capable de lui donner un petit-fils. Tu n'es qu'un bon à rien, lui dit furieux. Et toi, pas capable d'avoir un amant. Elle le gifle et lui dit, l'incinération artificielle, tu n'as pas voulu. Elle lui dit, c'est dégoûtant et même pire que d'avoir un amant. Il répond, ça nous aurait bien aidé. De toute façon, il est trop tard maintenant. Il lui dit, il ne nous reste plus que l'adoption. Elle lui dit, tu veux avoir un petit noir ? Furieux, il ne sait plus. Eux aussi sont venus à la soirée pour faire bien. Même s'ils n'étaient pas invités, ils ont pu rentrer étant donné qu'ils faisaient partie de la famille, les domestiques les ont laissés rentrer. Mais les gens leur font la tête. Et ils restent entre eux. Adrien tourne en rond, essaye de retrouver le bourg, mais ne le trouve pas, ni la voiture non plus. Épuisé, démoralisé, furieux, il couche dehors. Il fait encore très chaud. Le matin, une chaleur étouffante et un ciel de plomb le réveille. Il décide de marcher droit devant lui. Il verra bien. De toute façon, on n'a qu'un seul but, c'est retrouver la voiture. Le reste, il ne se souvient plus de rien. C'est pas facile avec la chaleur, le manque d'eau et de nourriture. Il réussit de temps en temps à trouver un mince filet d'eau qui était avant un ruisseau. Et pour manger, eh bien ma foi, il essaie aussi de trouver à manger quelques mûres, des pommes rabougries et rien d'autre. De manger ce genre de choses lui donne mal au ventre. Il a très souvent envie d'aller faire ses besoins. Lui qui n'a pas l'habitude de faire ses besoins comme ça, en pleine nature, il ne sait que comment se nettoyer. Il va derrière les arbres morts et une fois qu'il est fini, il essaie de se nettoyer avec quelques feuilles mortes qui sont à terre. Ça le dégoûte. Il marche droit devant lui, comme un somnambule. Ses yeux sont brûlés par le soleil. Ses vêtements sont déchirés à cause des ronces. Ses chaussures sont usées. Il est maigre. Il boit de minces filets d'eau qui étaient des sources. Il mange des pommes de terre presque pourries. Il mange quelques fruits qui sont restés aux arbres à moitié morts. De là, fait peu, il a très faim. Il est très maigre et sale. C'est tout juste si on le reconnaîtrait. Malgré sa grande figure, fatigue, il continue à marcher parce qu'il veut absolument retrouver cette voiture. ne pense qu'à la voiture. Il a complètement oublié Françoise qui est tombée dans le fossé, ou plutôt dans la fosse commune, et qui est peut-être morte ou blessée. Son cerveau s'est déconnecté à la vie réelle. Il ne se rend pas compte de sa détresse, se rend même plus compte dans quel paysage il est et dans quelle solitude il se retrouve. Il marche, marche sur la route, une route vide et poussiéreuse. Jeanne n'en peut plus d'attendre. Elle décide d'embaucher un détective privé pour rechercher son petit-fils. Elle a demandé à sa secrétaire de rechercher un détective privé. La secrétaire en a trouvé un et lui a demandé d'aller voir sa maîtresse. Jeanne le reçoit dans son bureau. C'est un homme, petit, maigre, cheveux grisonnants, dans les 50 ans, portant costume gris, défraîchi. Elle lui dit « J'aimerais c'est que vous puissiez rechercher mon petit-fils Adrien. » Il lui demande « Vous avez une photographie, quelque chose ?» Elle lui donne une photographie d'Adrien. Il la regarde et lui demande « Il est parti quand ? Comment ?» Elle lui répond et elle lui dit « Il a un caractère très fragile. Il faisait souvent des fugues. La plupart du temps, c'était pour conduire une voiture. » Bien entendu, une voiture qui ne lui appartenait pas. Et il demande, et d'habitude il allait où? Elle lui dit, droit devant lui. Mais souvent, il était rattrapé à Paris. Elle lui dit, bien, je vais voir. Elle lui dit, je compte sur vous, je vous paierai très bien. Et il lui dit, merci. Il est bien décidé de ne rien faire et de faire semblant de faire des recherches le plus longtemps possible, de faire durer la chose pour qu'elle puisse donner le plus d'argent possible. Les produits de première nécessité manquent. Les personnes qui ont peu mordent de plus en plus de faim et se fragilisent. Ils prennent facilement la peste parce qu'ils ont un corps fragile. C'est plus facile de prendre la peste lorsqu'on n'est pas bien nourri. Le gouvernement et les mairies décident de faire rationner un rationnement d'aliments. On a l'idée, c'est d'amener des chèvres dans les villes parce qu'elles mangent n'importe quoi, qu'elles donnent du lait et de la viande. Les chèvres sont stockées dans des stades, parcs et même dans des cours des immeubles. Ce sont le personnel municipal qui s'occupe de ces animaux et empêche que les gens les prennent. Les personnes déshéritées, manquant de nourriture et d'eau, boivent de l'alcool bon marché, comme par exemple le Marnia, et boivent de plus en plus. Cela crée des bagarres dans les rues et encore plus de misère. Le docteur Ambert, à une réunion à la mairie, du service de santé, dit « Il y a de plus en plus de gens qui boivent avec la chaleur et c'est très dangereux. Il faut interdire l'alcool et trouver quelque chose pour ravitailler les gens. Autrement, il va y avoir beaucoup de morts et de bagarres. » On lui dit, cela fera une sélection naturelle. Rambert est furieux. Il leur dit, c'est inhumain. On lui dit, nous n'y pouvons rien. Ce n'est pas nous qui avons créé cette sécheresse et cette maladie. « Pauvre Adrien, dans cette nature hostile, ne trouve plus à boire, ses lèvres sèchent, sa bouche aussi. Il y voit de plus en plus trouble et tombe la face contre un petit rocher. Le choc a été très dur et il perd connaissance. Trou noir. Trou noir. La face contre terre, les bras écartés, dans un décor désertique et poussiéreux, il ne bouge plus. Petit à petit, il se réveille, la tête lourde, ayant des difficultés à remettre ses idées en place. Il est couché dans un lit et se trouve dans un décor sombre. Il entend une voix de femme dire « Je l'ai trouvé, inanimé, sur le chemin. » Une voix d'homme dire « Il a peut-être la peste. » Une voix de femme dire « Non, je ne crois pas. » Une voix d'homme se penche vers lui. Il est vieux, ridé, cheveux blancs. Il dit « Regardez les taches qu'il a au visage. » La voix de femme dit « Non, ce n'est pas la peste. » Il est tombé sur une pierre. Puis Adrien se rendort. Il y a des moments où on le réveille en lui tapotant le bras et voit au-dessus de lui un visage de femme. Elle a le visage rond, cheveux blancs en chignon, l'air sympathique. Elle porte à la main un bol fumant et le tend près de la bouche d'Adrien. Adrien ouvre la bouche et boit. C'est de l'eau chaude. Il ne se souvient plus de rien, de ce qu'il était, le choc sur la tête, et puis il se sent très malade, fatigué, dort beaucoup. La vieille, pendant qu'il est réveillé, lui pose des questions. « Comment t'appelles-tu, mon petit ?» Il ne sait quoi dire, alors il ne dit rien. Elle lui demande encore « D'où viens-tu » Il lui dit qu'il ne sait pas. La vieille lui dit « Tu viens bien de quelque part ?» Adrien lui dit « Je ne sais pas. » Elle se dit que c'est encore un simple d'esprit. Au fil des jours, enfin, pour nous, ce sont des jours, parce que pour lui, il ne s'en rend pas compte. Adrien va de mieux en mieux et voit qu'il est dans une chambre de ferme. Il le sait parce que ça sent les pommes de terre et la lavande. La chambre n'est pas très grande. Il y a un lit à une place, une armoire sans glace à deux portes, une petite table et une chaise. Les meubles sont des meubles très vieux et campagnards. Il s'aperçoit que l'homme qui vient aux nouvelles est un prêtre. Il le sait par son habit. Il a l'air bon. Le prêtre lui demande s'il va mieux. Adrien lui dit « Je vous remercie, mon père. » Le prêtre lui dit « On t'a trouvé. » Inanimé, tu venais sans doute de recevoir une insolation. Alors nous t'avons mené ici. Adrien lui dit, merci mon père. Le prêtre lui demande, comment t'appelles-tu? Adrien lui dit, je ne sais pas, je sais rien. Le prêtre lui dit, certainement te cognant contre le petit rocher, tu as dû perdre connaissance et ça reviendra. Chose étrange, son choc a remis son cerveau disons en état normal, et n'est plus la personne un peu simplette qu'il était. Comme il a perdu la mémoire, il ne peut pas savoir comment il était. Le prêtre parle à la vieille dame dans la pièce qui est à côté de la chambre d'Adrien. C'est un séjour. Le prêtre n'est pas très grand. La pièce n'est pas très grande. Les hommes sont campagnards très vieux. Le prêtre lui dit, il a perdu connaissance. Vu les circonstances, on ne peut pas informer les autorités sur son cas. Il risquerait, c'est qu'on le prenne et peut-être le mener au four. Il voudrait mieux c'est le garder ici. La vieille dame lui dit, j'aimerais bien, mais j'en ai pas les moyens. Le prêtre lui dit, bon, je le prends avec moi alors. Si vous voulez, mon père. Alors un matin, le prêtre dit à Adrien, tu es chez une vieille femme qui n'a pas les moyens. Alors j'ai décidé, c'est de te prendre avec moi. Qu'est-ce que tu en penses? Adrien lui dit, je vous remercie. Je veux bien, mon père. Le prêtre lui dit, je m'appelle Paul. Donc cet après-midi, je t'amènerai chez moi. Et dans l'après-midi, le prêtre et la vieille dame lèvent Adrien, le maintiennent bien tous les deux, lui enfilent ses vêtements qu'il avait et le font sortir de la petite maison pour le mettre dans une carriole tirée par un cheval. Adrien voit qu'il est dans un petit village de campagne avec une église minuscule, un petit presbytère avec un jardin. Arrivé au presbytère, il mène coucher Adrien dans une petite pièce. La pièce ressemble beaucoup à celle de la ferme. On les déshabille pour le coucher. Une fois qu'il est couché, le prêtre lui demande « Ça peut aller ?» Adrien lui dit « Merci mon père, la vieille dame dit. Eh bien, voilà, je vais vous laisser. » Adrien lui dit, « Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, madame. Vous m'avez sauvé la vie. » Elle se penche pour l'embrasser et quitte la pièce. Le prêtre lui dit, « Eh bien, je vais te laisser. Si tu as besoin de quelque chose, tu me le diras. » Et le prêtre le laisse. Et Adrien, dans un bon lit, se repose. Puis petit à petit, Adrien se rétablit et peut se lever. Le prêtre le fait asseoir dans le petit jardin sur un banc. Adrien n'a toujours pas retrouvé la mémoire, sa tête est toujours vide. Cela ne le gêne pas d'avoir la tête vide et de ne pas savoir son passé. Un jour, en mangeant des pommes de terre à la cuisine, le prêtre lui dit « Il n'y a pas de cas de peste pour le moment ici. » Adrien lui demande « Qu'est-ce que c'est que la peste ?» Le prêtre lui dit, C'est une maladie qui sévit en ce moment de partout. Tu ne sais pas que tout le monde est malade et qu'il y a beaucoup de morts ?
Adrien lui dit,
« Non, je me souviens de rien. »
Le prêtre lui dit, « Ça viendra. »
Adrien se sent tout à fait bien. Alors il veut aider le prêtre et le prêtre lui propose de nettoyer l'église, de faire le jardin qui pour le moment ne donne pas grand-chose. Il lui dit de ramasser les quelques légumes qui poussent et le soir d'arroser avec comme un filet d'eau le jardin. Il lui explique ses travaux à faire car Adrien est incapable de prendre l'initiative. Même pour nettoyer l'église, il faut lui expliquer. Mais tout ça avec plein de bonne volonté et même fierté de pouvoir arriver à faire quelque chose et aider le prêtre. Le soir après le repas, le prêtre lui fait le catéchisme et Adrien s'aperçoit qu'il sait lire et écrire. Il parle de mieux en mieux dans les conversations avec le prêtre sur Dieu. Il parle même mieux qu'avant son accident.
Le prêtre va faire ses tournées pour visiter les malades du village. Il y va à pied parce qu'il n'y a plus d'essence et demande à Adrien de l'accompagner pour lui tenir compagnie. Les gens qu'ils vont voir sont des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et vivent d'une façon très misérable. Comme il y a la grande sécheresse, malheureusement, cela crée la misère et la misère des paysans, surtout des petits paysans. Le prêtre et Adrien vont dans des fermes misérables, délabrées et sales. À l'intérieur des maisons, il y fait très sombre, ça sent mauvais, les malades sont couchés dans des lits qui sont presque des gravats. Ils sont maigres, très maigres, ont de la fièvre. Le prêtre essaye d'encourager les malades et la famille.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.